Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous voici encore, ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Roger Vercel, Capitaine Conan. Conan revint vers nous. Vous êtes trois beaux salauds. Et l'autre en bas, là, ça fait quatre. Toi, le bel officier, compliment, tu fais un métier choisi. Dire que quand on te voit quelque part à présent, faut toujours se demander quelle saleté est en l'air. Mon greffier, un gendarme respectueux et disert, tenta d'expliquer. C'était un simple renseignement, mon lieutenant, que ces messieurs, l'inspecteur Stefanesco, vous le cogne, bouclez-la, toi là-bas, Chosensco, tu peux te vanter de m'avoir possédé et d'être le premier. Il regardait avec un commencement d'estime le Roumain qui essuyait du sang sur sa joue. Ta chaise, oh, c'était envoyé, hein, je retiens le coup. Puis il conclut d'un ton subitement las. Tout ça n'empêche pas que vous me dégoûtez tous. Et maintenant, videz pour me laisser mettre mon grimpant. Stefanesco, penché à la fenêtre, appelait déjà pour qu'on vînt nous déverrouiller. Conan, qui ne le quittait pas des yeux, réfléchissait tout en haut. Les mouches, si ça ne venait pas immédiatement après les troncs, ce serait parfois un métier à culot. Et à moi, il me promit quand je passais la porte. On en recausera demain de cette petite affaire. Il se trompait. Le lendemain, il partait en escorte de convoi jusqu'à Piteski, où je n'eus aucun mal à le faire envoyer. Je m'en débarrassai ainsi pour une bonne quinzaine, car je n'en voulais à aucun prix à l'audience. Soldat Grenet-Édouard du 268e régiment d'infanterie. Grenadier d'une magnifique bravoure, toujours volontaire pour les plus dangereuses missions, lors d'un coup de main du 23 septembre, a fait à lui seul quatre prisonniers, dont un lieutenant bulgare, et les a ramenés dans nos lignes. Déjà titulaire de trois citations. Soldat Beuillard Henri du 34e régiment d'infanterie. Passé sur sa demande au groupe franc, il a toujours fait preuve d'une intrépidité et d'un sang-froid au-dessus de tout éloge. Au cours de l'attaque du 12 février, a donné l'exemple d'une admirable ténacité, alors que sa compagnie débordée aux ailes se repliait par ordre, a répondu à son adjudant « Je n'en ai pas encore tué mon compte, je reste !» Le lieutenant qui défend mes brigands lit bien. Il s'est détaché les mots décoratifs et, comme dit Conan, poussé la moulure. Il a déjà lu que le soldat Moreau, le quatrième assaillant que nous ont livré les aveux d'Ileana Startul, blessé à la main droite, a réussi à abattre deux Allemands de la main gauche, que Dufour s'est évadé de l'hôpital avec 42 fièvres pour ne pas rater un coup de main, que Girard, un as de la liaison atteint d'une balle qui lui a brisé une jambe, s'est traîné sur un kilomètre pour remettre à leur destinataire les ordres dont il était porteur. Des natures. Des gars d'attaque, d'assaut. Tout à l'heure, je prononçais un réquisitoire d'hommes sensibles où j'évoquais les malheureuses en train d'agoniser à l'hôpital Regina Maria. Maintenant, le défenseur me répond que l'établissement pillé comme les victimes ne sont dignes vraiment que d'un minimum d'intérêt, que le métier de fille comme celui de tenancier de boîte de nuit comporte des risques connus. Les juges écoute attentif. Il est vraiment adroit, ce défenseur. Il s'efforce de ramener l'agression aux proportions banales d'une rixe de quartier réservé. Il parle de pistolets qui n'ont blessé que des glaces, d'une fille piétinée, mais peut-être d'abord par ses danseurs en fuite. Une autre a eu le crâne fracturé, un coup de siphon d'après le médecin légiste. Mais personne n'a vu donner le coup. La caisse a trois marches, la caissière y était assise sur un haut tabouret. N'est-il pas beaucoup plus logique de croire qu'à l'instant où elle a été renversée, sa tête est allée malheureusement s'enfoncer dans l'angle du bar? Des officiers cités comme témoins à décharge sont venus rendre hommage à la bravoure des accusés. « Soldats d'élite », ont-ils dit. De fait, ils sont alignés, impassibles, parfaitement corrects. Depuis 2 heures que dure l'audience, leur garde à vous n'a pas fléchi. Ils se tiennent aussi bien que les 12 hommes en armes debout au repos derrière eux. 3 ans de prison chacun. Avec les remises de peine, ils ne feront pas 10 mois de rap, ce n'est pas cher. Pourtant, lorsque Conan est rentré de Piteski et qu'il a appris la sentence, il a craché sur le parquet ciré du mess. 3 ans pour avoir vidé une caisse à macro. Ces gars-là, tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien assommé, continue, tu m'intéresses. Et puis, quand tu n'en as plus besoin pour te cacher derrière, que tu ne trembles plus du maigre des fesses dans ta belle culotte de cheval, à la chiourme. Mais ne vous en faites pas, si on remet ça demain, on vous réhabilitera tout de suite pour vous repousser devant. Son coup de poing fit sonner 20 couverts. Lave-la leur paix. C'est quand les lopettes et les mufles ont le droit de piétiner des vrais hommes pour se venger dessus de leurs 4 sous de colique, une belle dégueulasserie. J'étais allé ce matin-là au jardin du Sismigiu, sur le lac. Un disque de glace, d'une seule coulée, un orchestre émiettait des valses dans le vent. Les patineurs étaient nombreux, femmes enveloppées de fourrure dont on ne voyait que les yeux noirs, officiers roumains à shako pâle. L'éclat de la neige voisine verdissait bien un peu les manteaux et jaunissait les uniformes, mais on l'oubliait à cause de l'aisance élégante, de la rapidité facile, miraculeuse, de cette foule qui roulait comme une poignée de billes dans une assiette. Le tournoiement des croisés et des huites, les brusques voltes, le bruit égal et rond attiraient comme un vertige. On remarquait une femme. L'irréprochable ligne d'un corps penché, un délicat visage. On tentait de la suivre des yeux, mais elle se perdait dans le tourbillon sombre, dans cette cohue agile comme un bal de moucheron. Nous regardions de loin, nous autres, Français. Pas un de nous ne savait patiner, et notre prestige en souffrait. Aussi, penauds, envieux, nous évitions de trop séjourner autour du lac, de laisser paraître notre curiosité, notre dépit. Nous avions presque l'impression d'être frustrés, car on nous avait tant habitués à l'admiration que nous étions tentés de l'exiger en toutes circonstances. Ceux qui disent que le Français aime à dénigrer son pays ne l'ont certainement jamais rencontré à l'étranger. Là, il devient insupportable à force de chauvinisme. Beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas des sots ont fait alors à Bucarest figure d'imbécile pour l'inégalable candeur avec laquelle ils vantaient leur patrie et le dédain poli qu'ils manifestaient à l'égard des supériorités locales. Cela parvenait même à nous rendre encore parfaitement ridicules. Pourquoi, par exemple, le dimanche, nos 2 musiques se croyaient-elles tenues de jouer devant le cercle militaire? Nos quelques pistons et trombones échappés aux ravins des Balkans y élaboraient la mascotte devant une assistance sympathique d'abord, puis étonnée, puis moqueuse. Car c'était d'une misère indécente, les explosions de cette 20aine de gars. Nous, nous écoutions ça pieusement, presque avec défi. Musique française! Les Roumains profitaient de ce qu'on ne voyait pas leur bouche enfouie dans les fourrures pour rire éperdument, et nos petites amies avaient beau nous avertir avec gentillesse qu'après les musiques allemandes, les nôtres paraissaient un peu sommaires, pas un de nous n'en convenait. Ici, en tout cas, nous n'existions pas. Un de nos riz pain de sel était bien descendu sur la glace, mais il ne savait qu'aller droit devant lui, et pour n'être pas gêné, il opérait seul dans une sorte de ruisseau. Il se retournait en s'aidant d'un arbre. Les Français de tous grades le regardaient du bord, férocement. Je découvris Conan accoudé à une barrière, la tête sur les poings, et lui montrant notre champion titubant, « Tu viens, on va le prier de sortir !» Il haussa les épaules, « Laisse-le, puisqu'il s'amuse. » Cette indulgence m'inquiéta. Je le regardais, je ne lui connaissais pas cette figure morne, ses yeux immobiles. « Ça ne va pas, un coup de cafard ?»« Ça va très bien. » Mais le ton n'y était pas. Au bout d'un instant, il annonça avec une indifférence exagérée. On commence à en parler dur, hein, de la libération. Ce matin, au bataillon, on a rempli nos fiches. Puis tout à coup, cessant de feindre. Qu'est-ce qu'on va en faire? Hein? Des types qui ne sont bons qu'à se battre. Qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Des types qui ne sont bons qu'à se battre et qui s'en sont aperçus. Il y en a, tu sais. Pas beaucoup, mais il y en a. » Il me livrait une angoisse. Je ne lui rendis qu'un mot. Un de ces mots commodes qu'on a toujours sur soi. S'adapter. Il le médita, puis me montra un chien qui passait. « Oui, demande donc au Kleps là de s'adapter à la salade. On l'a entraîné à la chasse. » Et la chasse est fermée, on le fouaillera jusqu'au sang s'il plume une poule, alors faudrait-il qu'il dépose son instinct comme une crotte ? Il tourna le dos au lac, fit quelques pas dans une allée étroite où la neige n'était que peu piétinée. Je le suivis, il s'arrêta quand je l'eus rejoint. Suppose qu'il y en ait d'assez francs pour s'avouer, je ne dis pas qu'il la regrette, mais qu'ils n'ont vécu que là. Faudrait qu'ils s'en cachent, comme d'un chancre, et pourtant, ils n'ont pas demandé à y aller, et puis, toutes leurs provisions de culot, ils n'en auront plus le placement. Ça les étouffera, ils crèveront de congestion. » Il reprit sa marche en frappant les arbres de sa canne, des pans de neige nous tombaient dans le cou. « En bourrant ton roumain, voit-il, j'ai pensé à la police. Seulement, ça me dégoûte trop. » « À propos de police, dis-je. » Et pour le distraire, je lui contai une dernière affaire, un sergent, une Roumaine, son mari. Le sergent avait eu peur et avait abattu le mari. Il refusa de s'y intéresser. « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, ton rempilé ? Enfin, pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Venge la morale, va, protège la vertu des femmes. Ça vaudra mieux que d'assommer Grenet et Beuillard, de faire esquinter par tes flics roumains la pauvre petite garce qui les a donnés. » Pour ne point accuser le coup, j'achevais mon récit. Comme il avait été menacé et que le mari a une sale presse, il s'en est tiré avec 2 ans.
Tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême effort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Où sont tous mes amants? Tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Capitaine Conan, Roger Vercel. Je ne le revis plus de trois longues semaines. Un à un, les régiments quittaient Bucarest, s'embarquaient une fois encore pour une destination inconnue. L'état-major partit le dernier. J'avais rempli un fourgon timbré JM de mes liasses de paperasse jaune. Je me souviens d'un jour entier d'attente dans une gare de triage au-dessous d'un grand pont de fer où des femmes penchées faisaient des signes à mes camarades qui gardaient obstinément la tête levée. Des manquants étaient signalés dans toutes les compagnies. On me les ramènera un par un quand on les aura découverts sous les porte-manteaux de leur maîtresse. Un chemin de fer. Des journées de convoi d'une lenteur. 5 jours pour 600 kilomètres. Enfin, le 6e jour, dans une plaine plantée de choux verts, 2 coupelles d'or s'étaient levées à l'horizon. Saint Alexandre Niewski, Sofia. Nous étions sans doute des vainqueurs trop râpés pour qu'on nous exhibât dans une capitale de vaincus. On nous avait donc cachés à Gorna Baïna, à 10 kilomètres de Sofia. Gorna Baïna, paraît-il, veut dire « bain chaud ». J'ai vu ce qu'on appelle pompeusement les thermes. Dans ce hameau à villa, et c'est à peu près ignoble. Tous les plus gros bulgares viennent perdre dans une piscine carrée, nue absolument, un peu de leur graisse jaune. La piscine est à 35 degrés, mais la source qui jaillit dans une petite fosse est plus chaude de 10 bons degrés. Alors les plus durs de peau s'entassent là-dedans, serrés et cuisent dans ce court bouillon. Ils en sortent pourpres, crachant la sueur, flappis, jambes en losange. Et un garçon crasseux les soutient, les étrille devant les autres sur les 3 quais de pierre. Pas un n'a honte de sa graisse suintante, de sa laideur. Ils les étalent cyniquement, bestialement, et après qu'ils ont cuvé leur sulfure allongé sur de petits lits de caserne où ils soufflent sans maudire, ils repartent par le petit tramway vers ce Sofia qui nous est encore consigné. Les thermes sont les seules attractions du pays. J'hésitais à en tâter. Et j'arpentais un matin sans me dessiner à y descendre les bords carrés de l'eau fumante. Quand j'en vis sortir Conan, un Conan velu, zébré de cicatrices en peau plissée, ses 5 brisques de blessures, et qui m'accueillit avec toute sa belle humeur retrouvée. « Tu ne fais qu'arriver. Nous, il y a déjà 8 jours qu'on rigole. Vu de près, mon vieux, les bulles sont marrants. » Je ne savais trop comment interpréter cette appréciation et je me demandais encore qu'est-ce qu'il a déjà bien pu faire ici. Quand il revint habillé, le béret sur l'oreille, un ruban neuf à sa légion d'honneur. Tout de suite, il me conta ses premiers souvenirs bulgares, des filles, du raki, rien de grave. Puis, il me demanda en riant. « Tu ne me trouves pas changé ?»« Quoi, tu as maigri depuis que tu prends des os ?»« Ben non, ballot, j'ai engraissé de ça. » Il me tendit le bras, j'y vis un troisième galon d'argent. « Ah, mon capitaine, ne débloque pas et amène-toi. » Amène-toi surtout ce soir, je t'ai attendu pour fêter ça. Oui, ils me l'ont tout de même donné, ma ficelle. 2 mois peut-être avant de me fendre l'oreille, mais ça s'arrose tout de même. » Cela s'arrosa le soir dans la salle d'école que ces mitrailleurs avec amour avaient décorée de guirlandes et de petits drapeaux de papier. Il y avait même traîné un piano. Conan présida la réunion avec dignité, si bien que De Sève, un peu narquois, me fit remarquer son excellente tenue. Ah, le voilà, le moyen rêvé pour qu'il se tienne peinard jusqu'à sa démobilisation. À sa légion d'honneur, ça lui a fait le même coup, une crise de majesté qui lui a bien duré 3 semaines. Il prit son temps, puis ajouta : Ça valait plus. Il est souvent empoisonnant, mais si le mot héros a un sens. Des groupes s'étaient formés dans la salle. Le plus bruyant entourait le nouveau capitaine. Un camarade tapait sur le piano, des chansons commençaient. De Sève ouvrit une fenêtre car la fumée de 30 cigares nous embrumait. Assis sur le rebord, il me demanda « Vous ne l'avez pas connu au front, non ?»« Non. Alors puisque vous n'avez pas vu son corps franc, vous ne saurez jamais ce qu'est une véritable troupe d'hommes de guerre. C'était à la fois magnifique et effrayant. Combien étaient-ils ? 50. Il les avait choisis parmi tout ce qu'il y avait de guap à la division. D'ailleurs, vous avez fait la connaissance de quelques-uns. Ce joli monde cantonnait dans un village de l'arrière et il les soumettait à un entraînement terrible sans que jamais un seul ait tiqué. Et des trouvailles. Toute la division a défilé devant son fameux réseau à sonnettes que ses hommes traversaient sans faire tinter un seul des grelots qu'il avait accrochés à ses fils de fer. C'était prodigieux de les voir là-dedans, prodigieux de douceur, de souplesse. Lui les regardait se désarticuler et il constatait « Les bulles peuvent toujours accrocher des boîtes de singes à leurs barbelés, tiens. » Puis il me confiait modestement. « Je l'ai pris dans Victor Hugo, le truc. On nous l'avait lu à l'EPS. » Je riais. De Sève ajouta. « Il avait d'ailleurs souvent, en mon honneur, des réminiscences classiques aussi imprévues. Un jour, je l'ai surpris. » En séance d'exercice pratique, c'était féroce et muet, des luttes, des bonds aux gorges, de terribles moulinets de crosse, des balancements de couteaux de chasse qui entraient en vibrant dans les planches des cibles. Tout cela, m'expliqua-t-il, c'est épatant, parce que ça ne fait pas de bruit seulement. Si tu as besoin de prisonniers, tes refaits, tu les trouves toutes esquintées. Ce qu'il faudrait, c'est le filet des gladiateurs romains que j'ai vu un jour au ciné. Avec ça, t'aurais le bulle comme une fleur et vivant. Si vous aviez été dans son secteur, vous l'auriez vu arriver de sa marche indolente, balancé avec son air endormi, bonasse, sa bonne tête d'assiette de Quimper un peu rouge, car avec ses gars, il s'était mis au pinard plus que de raison. Il serait monté à votre observatoire, là, il regardait le terrain. Sans rien dire, pendant 1 heure, quelquefois plus longtemps. Eh bien, Norbert, il y avait quelque chose de merveilleux. Ses yeux possédaient un instinct infaillible, un instinct de goutte d'eau, pour découvrir la ligne de plus grande pente, pour suivre, sans jamais dévier, les dépressions presque insensibles, où ni les regards, ni les balles de l'ennemi ne pourraient le trouver. Il photographiait tout cela dans sa tête, patiemment. Et il s'en allait en injuriant cordialement les hommes qu'il rencontrait. À vous, en vous serrant la main, il vous aurait dit « Ah, ce soir, on verra du beau boulot. » Et vous l'avez vu ?
Oui.
Le 10 février, vers 9h, je me suis aperçu tout à coup que ma tranchée débordait d'hommes. Un tel débordement soudain, comme celui d'un ruisseau, après l'orage. Mais je ne les avais pas entendus venir. C'était une nuit sans lune, mais avec des étoiles. Et en Orion, ça suffit. Je distinguais parfaitement leurs silhouettes dégagées. Vareuses, souliers de repos, musettes, pas de fusil. Ils s'étaient tous plaqués contre le parado afin de ne point gêner la circulation, et Conan me les présenta. Des gars qui ne reniflent pas, qui ne toussent pas, qui ne déchirent jamais leur fond de culotte à un barbelé. Puis il me fit admirer leurs casques dépolis, leurs baïonnettes dans une gaine de drap, leurs grenades OF enveloppées de papier comme des œufs. Ce fut à moi, évidemment, pas à eux, qu'il fit ses recommandations. N'aie l'air de rien. Pas plus, pas moins que d'habitude. Des fusées comme les autres soirs, ça ne me gêne pas. Si un de tes types tire un coup de fusil de trop, ce sera à moi qu'il en rendra compte. Puis il se retourna vers ces gars et leur rappela qu'ils étaient des hommes, des vrais, et cela avec la précision énorme que vous lui connaissez. Enfin, il dit « On y va ?» Et d'un seul coup, sans un raté, sans un dérapage sur le parapet glissant, la ligne tout entière sauta. Trois groupes aux trois chicanes, et ils avaient disparu dans la nuit. Je savais que Conan n'irait pas par le ravin. Il ne m'avait pas caché que j'avais salopé le passage avec mes patrouilles. Il se proposait d'aborder la montagne par ses rainures, ses replis qu'il avait repérés l'après-midi. Je vous avoue que j'ai hésité à lancer ma première fusée. J'avais tort. Pas un mouvement sur ces croupes nues que la lueur éclairait pourtant maussadement dans ce paysage de pierre dont le magnésium fouillait tous les recoins. Je vous garantis qu'il savait se planquer. J'attendis 2 heures. 2 heures d'affût. Vous savez, on a la vue et l'attention comme dans un tunnel, toutes pointées vers l'issue, vers le point que l'on guette. Il commençait à pleuvoir, une de ces pluies d'hiver grecques, soudaines et drues, qui allaient crépiter sur les casques. Au bout de ces 2 heures, je pensais qu'ils avaient échoué pour une de ces 1000 raisons qui font manquer un coup de main, quelques chevaux de frise, un guetteur trop éveillé. Le secteur était d'ailleurs d'un calme. Une mitrailleuse vers le piton Socrate qui tirait une bande toutes les 5 minutes, comme chaque nuit. Je regardais l'heure, 5:00. Peut-être 10 secondes après, la crête d'en face s'embrasa. Une explosion telle que je crus à une mine. 50 OF qui venaient de tomber dans la tranchée bulgare et d'y éclater ensemble. Si vous n'avez jamais assisté à des combats de nuit sur ce front-ci ou dans les Vosges, vous ne pouvez pas réaliser exactement ce que ça peut être, une attaque à minuit en montagne. C'est volcanique. Un sommet incandescent, un cône de feu qui tonne. Les explosions renvoyées par les échos dans un fracas d'écroulement, un cataclysme tel qu'on ne peut croire que des hommes en soient cause. Ajoutez-y ce que vous connaissez, les tranchées à droite et à gauche qui s'allument en cordons fulminants, les fumées rouges qui se croisent comme si on jonglait avec des torches, le barrage, un barrage mal aligné d'ailleurs, qui ne devait guère gêner Conan pour revenir car il revenait. Son coup de main était achevé et je m'en apercevais à un détail saisissant. La tranchée qu'il avait attaquée s'était éteinte, et cela faisait un large trou noir dans le secteur bulgare. De chaque côté, les lueurs longues des fusils, les jets de feu des mitrailleuses, les gerbes des grenades qui éclataient le long des parapets, mais là, rien. Rien que le beau travail de Conan. Il sauta à 1:30, tout près de mon PC. Vous l'avez vu parfois en colère, mais vous ne pouvez pas vous figurer à fureur cette nuit-là. Apoplectique, les yeux hors de la tête, les poings crispés qui tremblaient à la hauteur des joues, tout prêts à se défendre dans les visages effrayants. Il répétait « Salaud, salaud, salaud !» mécaniquement, comme s'il avait haleté. Je crus un instant qu'une solide défense ennemie l'avait rejeté, mais pas du tout. Un de ses sergents m'expliqua à voix basse que le lieutenant n'était pas content parce qu'ils avaient tout tué dans les tranchées, chacun comptant sur le camarade pour rapporter les prisonniers demandés. Conan, vraiment affolé cette fois, avait couru dans le boyau, dégringolé au fond des sapes, sans pouvoir y trouver un vivant. Il répétait à deux pas de moi, « Salaud, ils ont tout bousillé, tout !» Et me prenant à témoin de sa modération, « Deux !» Je ne leur en demandais que deux. Voilà donc la suite de ce roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.